À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Les paradoxes dans l'Évangile », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Vous êtes dans le monde, dit Jésus, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà qui place le chrétien dans une attitude ambiguë, inconfortable. Cette affirmation de Jésus a vraiment une portée paradoxale. On ne sait plus où donner de la tête. Est-ce dire que nous sommes citoyens de deux mondes, comme on l'exprime souvent? Que nous avons une double allégeance, divergente, contradictoire, irréconciliable. C'est là un des paradoxes les plus malmenés du christianisme. Les ennemis du christianisme ont souvent reproché aux chrétiens, impatients de quitter cette vallée de larmes pour rejoindre Dieu au ciel. Les ennemis du christianisme ont souvent reproché aux chrétiens de se désintéresser du monde en vivant dans une sorte de schizophrénie spirituelle, de spiritualisme désincarné. Cela peut conduire à la limite au suicide religieux, à quitter au plus vite la prison de ce monde pour rejoindre Dieu comme le firent les albigeois ou les cathares, ou certaines sectes plus actuelles. N'est-ce pas apparemment, d'une certaine façon, symboliquement, ce que font les moines en mourant au monde, en fuyant au désert ou dans la solitude de leur monastère, marquant une distance géographique d'avec lui et d'avec ses tentations? Le reproche inverse est souvent adressé aux chrétiens qui veulent s'intéresser au monde, s'approcher de lui, vivre au cœur de la masse, en solidarité avec les frères humains, en partageant leurs travaux et leurs peines. On les accuse alors de sécularisme, de matérialisme, de communisme. Pensez aux crises de l'Action catholique, aux crises des prêtres ouvriers, de la théologie de la libération. Au mouvement des moines ont succédé à travers l'histoire les ordres mixtes des dominicains, des franciscains, puis les communautés apostoliques, les instituts séculiers de toutes sortes qui prônent la présence auprès des pauvres et l'engagement dans le monde pour la justice. Au niveau personnel, notre vie spirituelle n'est-elle pas toujours marquée par la paradoxale tension entre notre prière et notre action concrète, par l'oscillation incessante entre notre contemplation et notre engagement social. Vous êtes dans le monde, dit Jésus, mais vous n'êtes pas du monde. Que penser de cet important paradoxe de notre vie chrétienne? Comment éviter de dériver d'un côté ou de l'autre dans un spiritualisme angélique ou dans un sécularisme sans âme? Nous le savons déjà, si nous voulons puiser toute la richesse et toute la sagesse de l'enseignement de Jésus, nous ne devons pas séparer les deux éléments apparemment contradictoires du paradoxe. La tension qu'il exprime est créatrice et source de vie. Il s'agit pour nous de savoir bien conjuguer ces deux aspects importants de notre vie spirituelle, notre attachement au monde et notre détachement par rapport à lui. Encore faut-il comprendre de quoi l'on parle quand on parle du monde. Le mot « monde » est ambigu. Il a plusieurs significations que nous devons savoir reconnaître et distinguer. Le monde désigne d'abord notre univers et tout ce qui le compose, la Terre, son environnement cosmique, les êtres humains qui l'habitent. Pour le chrétien, ce monde, Dieu l'a trouvé bon. Il a trouvé bon de le créer. La création est bonne, elle est aimée de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, dit saint Jean. Il n'est donc pas question de mépriser cette création. Nous pouvons et nous devons l'aimer, en prendre soin, l'amener à porter ses fruits, devenir la lumière de ce monde. Mais quel est donc le monde mauvais qu'il ne faut pas aimer, qu'il faut quitter, avec lequel nous ne devons avoir ni compromis, ni connivence? Ce monde qu'il faut combattre et fuir, disons-le tout de suite, c'est une mauvaise façon d'être et d'aimer, une mauvaise façon de se comporter vis-à-vis des personnes et des choses, un mauvais usage de la création du Seigneur. Le mot qui m'apparaît le plus apte à définir ce que signifie le monde mauvais chez saint Jean, c'est le mot « cupidité ». Cette sorte d'adultère dans le cœur qui amène à se replier sur le monde pour le posséder pour soi, pour se suffire à soi-même au moyen des richesses, des honneurs et pour asservir les choses et les autres. Le monde mauvais, c'est la création de Dieu, mais détournée de sa propre fin. Voilà ce que vise saint Jean lorsqu'il écrit dans sa première épître, « N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la richesse, vient non pas du Père, mais du monde. » Saint Augustin donne un exemple éclairant de ce que peut être l'esprit mondain, l'esprit de cupidité et de convoitise. Supposons, écrit-il, qu'un fiancé donne une bague à sa fiancée. Si elle préfère la bague au fiancé, qui a fait pour elle cette bague, ne surprend-on pas dans cet attachement au cadeau du fiancé un adultère, encore que cette jeune fille aime ce que lui a donné son fiancé. Le monde, c'est préférer le don au donateur, ou se préférer soi-même au donateur. C'est proprement un adultère. Le mot adultère veut dire aller vers un autre que celui auquel nous sommes liés, engagés. Dans la Bible, l'image de l'adultère, l'image de l'épouse infidèle, s'infatuant de sa beauté pour se prostituer, que l'on trouve en particulier chez Osée et chez Ézéchiel, demeure le symbole le plus éloquent pour désigner l'idolâtrie, qui consiste précisément à se tourner vers les faux dieux. Veux-tu savoir si le monde mauvais est en toi? Écrit le Père Laplace, si ta manière d'être et d'aimer est mondaine, regarde l'inclination de ton cœur. C'est elle qui fait le monde mauvais. La cupidité peut se trouver partout, tout autant chez les personnes consacrées qui, dans leur monastère, prétendent fuir le monde, que chez celles qui font profession de travailler pour le royaume. Ainsi, le mal s'introduit dans le monde quand le désir devient convoitise de la chair, des yeux et de l'orgueil des richesses, quand l'objet du désir devient un absolu que l'homme veut posséder à tout prix, une idole rivale de Dieu. dans toutes les traditions spirituelles à travers l'histoire, on s'est appliqué à départager le monde mauvais qu'il faut fuir du monde bon qu'il faut aimer. La division entre ces deux mondes, nous pouvons maintenant le comprendre, ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais au fond de notre cœur, là où se prennent nos décisions importantes. C'est la cupidité et tout ce qu'elle entraîne avec elle qui en décide. Partout dans la Bible et dans l'histoire de la spiritualité, nous retrouvons l'expression de l'alternative qui s'offre à tous de reconnaître la beauté et la bonté de notre monde ou de faire qu'il devienne mauvais par nos convoitises et nos abus. Qu'il suffise d'évoquer les deux destinées de Caïn et d'Abel, les deux lignages de Sarah et d'Agar, les deux chemins s'ouvrant à l'homme, le chemin de la mort et le chemin de la vie. On retrouve dans les évangiles et dans la vie de Jésus la même dualité. Les tentations de Jésus au début de sa vie publique, qui sont une sorte de synthèse des défis auxquels toute personne humaine est confrontée, tentation de richesse, tentation d'honneur, tentation de l'orgueil. Nous avons tous à choisir, pour emprunter l'image de Jean, entre le monde de la lumière et celui des ténèbres. Départager dans notre vie ce qui est le bon grain et ce qui est l'ivraie. Saint Augustin a exprimé ce thème constant de l'Écriture dans son ouvrage célèbre « La cité de Dieu », qui le pose à la cité terrestre. Dans ses exercices spirituels, Ignace de Loyola reprend la même ligne de pensée dans sa fameuse « Méditation des étendards », des deux étendards. Il existe deux philosophies, deux façons diamétralement opposées de voir la vie, celle de la vraie vie inspirée par le Christ et celle de la vie trompeuse, de la vie mondaine. Ce que cherche le monde cupide, ce sont les richesses, les honneurs qui conduisent à l'autosuffisance orgueilleuse. Il y a une logique interne dans cette philosophie du monde. Celui qui est riche veut être considéré, et celui qui est honoré en arrive à se croire superbement le maître de tout. Les attitudes dont la philosophie mondaine fait la promotion s'avèrent finalement aliénantes et destructrices. Celle du Christ, au contraire, exprime une liberté profonde face à soi, face aux personnes, face aux choses. Elle oppose la pauvreté aux richesses, le mépris, c'est-à-dire la capacité sereine d'accepter qu'on se méprenne sur notre compte, le mépris face aux honneurs et l'humilité face à l'orgueil. On le voit bien, il y a opposition radicale entre ces deux mondes, entre ces deux philosophies de la vie, entre ces deux logiques, entre ces deux dynamiques qui veulent régir notre existence. Comme dit le Seigneur, personne ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Bien sûr, dans la vie concrète, les choses ne sont pas aussi claires. La personne humaine est en croissance. Il lui faut se connaître elle-même, évaluer ses désirs profonds, se situer, faire des choix, prendre parti. Cela peut prendre du temps, peut comporter, on le sait, des difficultés, des crises, des échecs, des reprises, des reculs et des avancées. Faudrait relire ici la parabole du bon grain et de l'ivraie, où le Seigneur invite à ne pas arracher trop vite les mauvaises herbes, mais à les laisser pousser pour bien discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, et pour ne pas risquer d'arracher le blé avec l'ivraie. Une autre façon d'aborder le paradoxe qui veut que nous soyons dans le monde mais pas du monde est de le considérer sous l'aspect d'engagement et de dégagement. Dans son livre « Le milieu divin », Teilhard de Chardin affirme ceci. « Le chrétien est à la fois le plus attaché et le plus détaché des humains. Il se consacre totalement à ses tâches terrestres, tout en étant conscient que ses tâches sont relatives et non pas des absolus, conscient qu'il existe quelque chose de plus grand qu'elle. Tout est relatif, sauf l'absolu, et c'est précisément dans la découverte de cet absolu qu'est Dieu que nous pouvons saisir le caractère relatif de toutes les choses créées et dès lors nous libérer. Ce détachement, cet espace intérieur au cœur même de l'engagement le plus total, a un nom. Il s'appelle liberté. Seul un grand amour produit des fruits de liberté, est capable de dégager la personne de la nécessité ou de l'utilité, des amours exclusifs, possessifs, manipulateurs, vaniteux, jaloux, colériques. Le détachement, précise Henri Nouwen, n'est que la conséquence d'un plus grand attachement. Il faut aimer beaucoup pour être libre. Le secret de la liberté de Jésus est tout entier dans son grand amour pour le Père et pour ses frères. Quand quelqu'un découvre et reconnaît la présence de Dieu dans sa vie, il se produit une radicale relativisation de tout le reste, une sorte de déblayage de tous les pseudo-absolus, des idoles, des petits dieux que nous avons dans notre myopie spirituelle, l'art de garnir notre vie. Le croyant sait alors où il peut établir son cœur, car il a trouvé le trésor qu'il cherchait. Ses forces affectives se polarisent sur le grand amour de Dieu qui envahit sa vie en le dégageant, sans les abolir de ses amours humaines. C'est ce type de libération ou de liberté intérieure qu'Ignace nomme indifférence. Le mot indifférence sonne mal à nos oreilles. Il semble confirmer les reproches que l'on fait trop souvent aux chrétiens de ne pas prendre au sérieux son travail en ce monde. Il ne faut pas se méprendre sur la signification de ce terme. Il ne s'agit pas, comme le langage d'aujourd'hui pourrait le laisser entendre, d'une attitude purement passive, désabusée, de quelqu'un pour qui la vie n'aurait plus d'intérêt. Cette signification du terme indifférence est aux antipodes de ce qu'Ignace voulait signifier. Teilhard de Chardin parle d'une indifférence passionnée, Jacques Lewis d'une indifférence préférence. Seule la vision passionnée du plus grand que tout, seul un grand amour peut ordonner les affections des chrétiens, le débarrassant de la cupidité et des convoitises, et le rendant libre. dans le monde et pas du monde, c'est sans doute ce paradoxal détachement dans l'engagement que nous retrouvons dans cette célèbre règle d'action de la spiritualité ignatienne qu'il nous faudrait longuement méditer. Aie confiance en Dieu comme si le succès dépendait tout entier de toi et rien de Dieu. Et en même temps, donne-toi tout entier à l'action, comme si toi, tu étais totalement inefficace et Dieu seul efficace. Act and trust. Agis et abandonne-toi. Voilà à la fois ce que c'est qu'être dans le monde et de n'être pas du monde. Vous êtes dans le monde, dit Jésus, mais vous n'êtes pas du monde. Voici une dernière piste de réflexion pour approfondir ce paradoxe qui évoque, dans son deuxième versant, la réalité du ciel qui serait précisément pour le croyant cet au-delà du monde auquel nous appartenons. Si nous ne sommes pas du monde, est-ce dire qu'il existe un autre monde? Dans quel sens pouvons-nous dire que le chrétien appartient à deux mondes? Notre conception du ciel rejoint-elle celle de Platon, pour qui Dieu se logerait dans un monde inaccessible, le monde des idées, aux antipodes de notre monde matériel considéré comme une prison? Cette conception rejoint celle de Carlo Caretto, qui fait cette confidence dans un de ses livres. « Quand j'étais enfant, ciel signifiait pour moi un endroit très élevé, au-delà des étoiles, cet azur lumineux qui enveloppe la terre. J'imaginais l'âme de ma grand-mère voler là-haut dans les cieux, dans la transparence, très loin, en un lieu inaccessible pour nous, les vivants, dont le corps alourdi par le péché est incapable de s'élever. Je puis vous dire, j'ai mis beaucoup de temps pour changer d'idée, pour situer le ciel là où il faut, ou tout au moins d'une manière crédible. Il n'est guère possible, dans les quelques minutes qui restent à l'émission, de faire totalement la lumière sur la question du ciel. Faudrait montrer que le ciel n'est pas un lieu, un ailleurs, qu'il est déjà commencé ici-bas, qu'il consiste à être avec le Seigneur, à expérimenter sa vie en plénitude, ses énergies plus fortes que mille soleils, qu'il suffise en guise d'ouverture, d'apéritif au sens étymologique du terme, de lire ici quelques extraits d'un texte lumineux de Louis Évely, tiré du dernier chapitre de son livre « C'est toi cet homme ». Je cite « Le ciel n'est pas un lieu, un monde où s'évader. La terre est le lieu où le ciel se conduit. Dieu ne nous invite pas à passer dans l'autre monde, Dieu s'est invité dans notre monde, il l'a racheté, il y a lancé des forces infinies à nous confier pour que nous le transformions et il couronnera son œuvre et la nôtre un jour en l'éternisant. Nous sommes dans ce monde pour toujours. Prenons-le à cœur, hâtons-nous de l'améliorer. Le ciel ne sera que la fixation et l'épanouissement de ce que nous aurons réalisé avec les dons que Dieu nous a faits. Trop de chrétiens sont spiritualistes. Ils croient à l'immortalité de l'âme et non à la résurrection de la chair. Ils aspirent à fuir cette terre, à se désincarner. Dieu s'incarne. Dieu juge la chair, bonne conductrice du divin. Il s'est manifesté par la création. Il s'est incarné dans la nature humaine. Il communique sa grâce par les sacrements. Il fera participer toute la création à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il n'y a pas à choisir entre Dieu et le monde. Il faut l'y reconnaître et l'y manifester. Dieu ne siège pas dans un autre monde, il est entré dans ce monde et n'en est jamais sorti. Le Christ n'a pas pris sa retraite, il reste avec nous tous les jours. Il ne faut ni enterrer, ni encieler le Christ. Le Christ reste le personnage le plus actif de l'histoire du monde. Cessons d'imaginer le ciel comme un refuge, un asile, un super pavillon de vacances, bien isolé, derrière un massif d'astres, où Dieu trônerait avec tous les ex-chrétiens retirés des affaires de ce monde. Dieu ne préside pas là-haut, une assemblée de retraités canonisés, et il ne faut pas nous attendre, sitôt pousser notre dernier soupir, à n'avoir plus rien d'autre à faire que d'astiquer nos auréoles. Le ciel, pour nous, c'est commencer à croire à cette présence de Dieu dans notre monde, à la reconnaître, à nous familiariser avec elle, à travailler à son extension.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.